Bonjour, vous êtes en compagnie de Caroline pour l'émission Le Temps des Fleurs et, avec Noël, je trouvais ça de circonstance de vous parler de notre sapin local. Le mot sapin est un gros raccourci, car les sapins sont des arbres, alors que là je vais vous parler d'un arbuste, c'est le genévrier commun. En effet, le genévrier est un petit arbuste qui a même souvent un port d'arbrisseau et qui ne dépasse pas 6 mètres de haut, contrairement à nos beaux sapins de Noël, bien connus et souvent vendus en petite taille à cette occasion. D'ailleurs, son nom latin, qui est Juniperus communis, signifie « buisson » ou « arbuste acre » en selle. « Acre », ça vient sûrement du fait que ses baies aient un goût assez particulier. Je dis que le genévrier est notre sapin local car il est présent chez nous de façon naturelle et son aire de répartition naturelle est spontanée et couvre d'ailleurs quasiment toute la France. Alors que les autres sapins que l'on peut voir ci et là dans le Lot ont été introduits pour l'ornement ou la sylviculture. Il est assez facile de reconnaître le genévrier déjà grâce à sa taille et à son port, qui lui donne tout à fait une allure de petit sapin plus ou moins tortueux. Et on le reconnaît surtout par la couleur de ses petites aiguilles, qui sont très piquantes d'ailleurs. Elles sont de couleur glauque, c'est-à-dire un vert bleuté, voire un peu grisâtre. Le genévrier est un conifère et fait donc partie des gymnospermes, qui sont des plantes à graines qui ne sont pas renfermées dans un ovaire. Alors l'ovaire, c'est ce qu'on appelle communément un fruit chez les angiospermes. Et ça, vous le savez bien, les conifères ne portent pas de fruits, mais des cônes ou des pommes de pin. Et pourtant, certains d'entre vous le savent sûrement, on parle généralement de baie de genévrier ou de baie de genièvre, alors que la définition d'une baie, c'est bien un fruit. Alors il y a bien un bug là. Botaniquement parlant, un conifère ne peut pas porter de fruits. Alors pourquoi on dit baie de genévrier ? Eh bien en fait, c'est un abus de langage par rapport à la forme. En effet, le genévrier porte bien des cônes qui ont une forme de baie. Mais en fait, le nom approprié serait galbule de genévrier, car ce sont des cônes dont les écailles sont soudées entre elles et simulent une baie. Vous pourrez observer aussi que les baies ou galbules, maintenant que vous savez comment elles s'appellent réellement, sont soit vertes, soit noires violacées. Les vertes sont toutes jeunes de l'année et elles mettront environ 2 ans à mûrir pour nous donner les galbules violet foncé. Et vous verrez aussi que tous les pieds de genévrier ne donneront pas des galbules car c'est une espèce dioïque. C'est-à-dire qu'il y a des individus femelles qui portent ces faux fruits et des individus mâles qui portent des cônes qui ne produisent que le pollen. Alors, il appartient à la famille des cupressacées. Le genre Juniperus rassemble une 50aine d'espèces dans le monde, dont 6 en France. Dans le Lot, nous n'avons que le genévrier commun, les autres étant pour la majorité des espèces méditerranéennes. Mais ceci dit, notre genévrier aime bien aussi la chaleur et la sécheresse car on le retrouve en zone ouverte sur des versants bien ensoleillés et préférentiellement sur des sols calcaires. Mais on peut aussi l'observer sur les terres rouges sidérolithiques qu'on a aux boulevs. Ces terres sont à caractère latéritique issu de l'altération des roches sous le climat tropical durant l'Éocène. En tout cas, on peut le voir presque partout dans le Lot, accessible à un bon nombre d'entre vous pour vous permettre de profiter de tous ses intérêts. Ceci dit, il est quand même important de préciser que même s'il est présent quasiment partout en France et relativement abondant dans le Lot, il est en régression quand même, plus dans certaines régions que dans d'autres, à cause de la déprise pastorale, car en fait, il est clairement associé au pâturage itinérant traditionnel des coteaux et plateaux par les chèvres et les moutons. Et il ne résiste pas bien à la fermeture forestière. En forêt, on peut voir s'il y a là quelques individus qui résistent, qui s'effilent du mieux qu'ils peuvent vers le ciel. Ils indiquent en fait l'existence passée de pelouses pâturées à cet endroit. C'est d'ailleurs pour ça que l'habitat naturel dont il est caractéristique, que l'on appelle juniperé, est un habitat protégé au niveau européen par la directive Habitat qui s'appuie sur un réseau de sites Natura 2000 pour protéger les espaces naturels en Europe. Il faut donc bien veiller à le respecter si on souhaite le préserver et profiter encore longtemps de ses services, car il est connu et utilisé depuis l'Antiquité pour un grand nombre d'usages. Et l'un des usages les plus connus du grand public, c'est dans l'alimentation. Il est parfois surnommé le poivre du pauvre, car ses galbules, qui ont un goût que je trouve vraiment sympathique, puissant et unique, elles ont toute leur place dans la cuisine, principalement sous forme de condiments pour épicer et aromatiser des plats. Elles sont vendues comme telles dans le commerce sous l'appellation de baies de genévrier. Mais vous pouvez tout à fait les récolter vous-même dans la nature, et dans l'idéal, en octobre-novembre. Par contre, il ne faut pas être timide face au comportement plutôt très piquant de notre ami, alors attention, on doit, ça pique sévère. Il vaut mieux se munir de bons gants et de patience pour prélever ce qui nous intéresse. Donc, soit vous n'êtes pas sensible à ces aiguilles acérées, ce dont je doute, soit vous y allez tout doucement avec des pincettes, mais bon. Ou sinon, vous pouvez aussi fouetter les branches au-dessus d'un parapluie renversé pour récupérer les baies mûres qui vont tomber toutes seules. Et ça, ça marche plutôt bien. Et ensuite, il ne restera plus qu'à trier entre les aiguilles. Alors, leur usage est bien connu, notamment dans la choucroute. Et il a tout son intérêt aussi dans d'autres plats assez lourds, comme les plats de viande et de gibier surtout, car il faut en fait une viande assez forte en goût pour rivaliser avec celui des baies. Et là en plus, on va pouvoir profiter de l'intérêt de sa propriété digestive. On peut aussi écraser les baies fraîches ou utiliser les baies en poudre séchée pour faire par exemple des sauces ou les mélanger à du beurre, de la crème ou de la graisse végétale qu'on utilisera comme condiment à ajouter, je sais pas, dans des lentilles ou de la purée, des soupes par exemple. Et pour le dessert, on peut faire une sorte de confiture avec ou sans sucre à servir avec de la crème fraîche ou dans un lait chaud. Cela se fait encore traditionnellement en Haute-Provence ou encore en Pologne et en Suisse. Et ensuite, les baies ont toute leur place bien méritée aussi à l'apéritif. On a d'abord la genévrette qui est une bière obtenue par la fermentation d'un mélange d'orge germée et de baies. Et bien sûr, vous connaissez aussi sûrement le gin, un alcool aromatisé aux baies qui est beaucoup utilisé dans les cocktails. Son ancêtre est le genièvre, une eau-de-vie de grains originaire du nord, de la Belgique et du Pays-Bas. Il est traditionnellement consommé en bistouille, ou plutôt bistoule comme on dit d'un schnorr. C'est le café du matin avec une petite goutte de schneff. La bistouille est réputée pour réchauffer, donner du courage et du cœur à l'ouvrage dans tous les métiers d'ouvriers. Et maintenant, le genièvre fait partie intégrante de la gastronomie du nord de la France pour aromatiser des spécialités du terroir comme les gaufres, les terrines ou encore le potchevlèche qui est un plat de viande en gelée à manger avec des frites bien chaudes, une spécialité des Flandres. Et pour ceux qui ne boivent pas trop d'alcool, vous pouvez aussi vous essayer à la réalisation de sirops ou à la limonade fermentée aux baies. Alors attention pour ça, il ne faut pas laver les baies pour pouvoir garder la prune, cette espèce de pellicule grisâtre qui assure les baies, qui est utile à la fermentation. Et pour finir, les jeunes pousses d'aiguilles, fraîches ou sèches, font du thé plutôt agréable, tout comme la décoction des galbules d'ailleurs. Et là, en plus, au plaisir, s'ajoutent les bons effets pour la santé. Mais avant de passer à tous ces bienfaits sur notre santé, on va faire une petite pause avec They Might Be Giants, un groupe pop-rock alternatif américain qui chante une chanson sans grande prétention sur les conifères qui s'appelle tout simplement « Sea is for Conifers ». Une façon rigolote d'aborder la diversité spécifique de ce groupe botanique.
Most with cones for seeds, most with needles for leaves. Sea is for conifers, my kind of trees. Large junipers and fir, spruce cedars and pines. Sea is for conifers, more than 500 kinds. If you see a Christmas tree or a stack of newspapers or a 2x4 frame of a house, it's probably made from pine trees, and pine trees are conifers. That's what this song is about. Or if you see a plant in the shape of an elephant or in the shape of a dog, it's probably a shrub, a conifer shrub, pruned into that shape by someone. Most with cones for seeds, most with needles for leaves. Sea is for conifers, my kind of trees. Larch, junipers and fir, spruce, cedars and pines. Sea is for conifers, more than 500 kinds.
There are so many different kinds of conifer trees. This is just a few of them. Spruce. Hemlocks. Larch. Cypress. Juniper. Fir. Douglas fir. Cedar. Yew. Pine. The dwarf conifer. And the great California Sequoia redwood.
Most with cones for seeds, most with needles for leaves. Sea is for conifers, my kind of trees. Larch, junipers and fir, spruce, cedars and pines. Sea is for conifers, more than 500 kinds.
Pour ceux qui n'arrivent que maintenant, vous écoutez Le Temps des Fleurs et la star du jour est le genévrier commun. Et nous allions parler de l'un des plus importants usages de cet arbuste qui est connu depuis l'Antiquité pour ses puissantes propriétés médicinales. D'ailleurs, une croyance semble se perpétuer depuis qui dit que celui qui croquera une baie de genévrier chaque jour se prémunira de toute maladie. Ma foi, ça coûte pas grand-chose d'essayer, surtout dans un coin comme le nôtre où le genévrier ne manque pas. Les baies sont riches en huiles essentielles, en tanins, en vitamine C, en minéraux et en plein d'autres composés chimiques intéressants pour notre organisme. Il est principalement connu pour ses actions sur la sphère du système digestif, car comme je l'ai dit tout à l'heure, les baies vont faciliter la digestion, surtout quand on a un peu abusé d'un bon repas de fête. Il va limiter la fermentation et la production de gaz en aidant à la digestion de tout ce qui est un peu dense, comme les protéines et les graisses en excès qui ont tendance à nous donner cette sensation de lourdeur lorsque l'estomac s'est retrouvé un petit peu débordé. Il est aussi particulièrement utile chez les personnes âgées, chez qui la sécrétion gastrique diminue avec l'âge. Alors il peut être pris sous forme de tisane ou de teinture mère après le repas, mais il peut aussi être pris en prévention avant. Les bourgeons qui sont utilisés en gémothérapie sont réputés pour leur action détoxifiante de l'organisme et drainante du foie et de la vésicule biliaire, ce qui peut être encore bien utile après un gros repas arrosé pour soulager notre pauvre foie. Il paraît même qu'il pourrait nous accompagner pendant une chimiothérapie en soutenant les fonctions du foie. Le genévrier est aussi un puissant diurétique. On l'utilise dès que le corps a du mal à évacuer un excès d'eau qui peut s'accumuler dans les parties inférieures du corps, comme les cuisses, les chevilles et les pieds. Cette propriété est également très utile pour augmenter le volume d'urine, pour éliminer des infections urinaires ou alors faciliter le passage de petits calculs. Et en plus, c'est l'un des antiseptiques urinaires les plus puissants et très utiles en cas de cystite. Il aidera aussi les femmes dans leur cycle menstruel en cas de règles douloureuses ou de règles irrégulières ou absentes. Comme toutes les plantes riches en résine, car je le rappelle, c'est un résineux, le genévrier est un désinfectant pulmonaire efficace et un bon expectorant. En inhalation, ces huiles essentielles pourront apaiser les bronchites. En usage externe, les feuilles séchées en poudre peuvent être utilisées comme antiseptique sur une plaie en cataplasme. Mais pour cet usage, vous avez aussi l'huile de cade, que vous connaissez peut-être, qui est extraite du bois d'un autre genévrier, plus méditerranéen. C'est le Juniperus oxycedrus, qui est généralement utilisé pour les problèmes de peau. C'est un très bon cicatrisant et antiseptique. L'huile de cade est aussi très réputée pour les soins aux animaux, notamment pour le traitement de la gale chez les volailles par exemple, ou contre la dermite du cheval. Donc, finalement, vous pouvez constater que vous avez encore un allié plus qu'intéressant autour de chez vous. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a été nommé le thériaque des paysans, comme d'autres plantes d'ailleurs, car il était considéré comme un remède universel, une providence pour l'humain. Malheureusement, tout cela a été un petit peu oublié, à part dans le djinn. Bon. Mais maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous savez. Alors malgré tout, il faut quand même que vous sachiez qu'il n'a pas que des bienfaits pour nous si on en abuse. Que ça soit sous forme de djinn, ou d'infusion, ou même en grignotant les baies. Car comme d'habitude, il n'est pas conseillé pour les femmes allaitantes ou enceintes car il stimule les contractions utérines. Et il est à prendre avec précaution par les personnes souffrant d'insuffisance rénale car il pourrait provoquer des irritations des reins si consommé en excès. Alors maintenant, si on veut parler d'autres usages. Ce petit arbuste nous réserve encore bien des services car il est utilisé dans bien d'autres domaines. Tout d'abord, il nous offre un très beau bois, certes très tortueux, peu utile en menuiserie, mais sa dureté, ses couleurs jaunes à brun rouge et son grain fin sont très appréciés des ébénistes et des tourneurs pour faire des objets d'art, des boîtes, des manches d'outils ou de couteaux, des bâtons de marche, des tuyaux de pipe, etc. Son caractère imputrescible a même été utilisé pour faire des conduites d'eau, des piquets et même des cercueils. Il est assez peu utilisé en bois de chauffage, ce serait dommage d'ailleurs, mais il a pu servir à faire du charbon. Ceci dit, il était plutôt utilisé pour chauffer des fours ou pour faire les fumaisons de viande et de poisson. D'ailleurs, on s'en sert encore pour fumer le saumon. Il a toujours été utilisé en fumigation jusqu'au 19e siècle pour ses propriétés antiseptiques en le brûlant dans les maisons et dans les lieux publics lors des épidémies. Ça pourrait bien être d'actualité d'ailleurs. Enfin bref, avec ses usages, sa fumée avait donc la réputation d'éloigner les démons responsables des maladies. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser comme un encens pour embaumer votre maison d'une agréable odeur protectrice et purifiante. Il est aussi utilisé dans la teinture végétale en donnant avec ses jeunes pousses et ses baies des couleurs noisettes à cannelle très résistantes dans le temps. Puis, dans les régions comme la nôtre où il n'y a pas de sapin, les anciens récoltaient un petit genévrier en guise de sapin de Noël. Mais là, attention, ça pique et en plus ça perd ses aiguilles pas mal. Bon d'ailleurs, à ce sujet, il y a une petite histoire rigolote à raconter qui nous vient de l'Arizona. C'est l'histoire du mystérieux arbre de Noël de l'Interstate 17, le petit Scrubby, le genévrier de Noël. Depuis près de 40 ans, chaque année après le jeudi de Thanksgiving, se trame un drôle de phénomène. Des elfes bien mystérieux viennent décorer un genévrier un peu rabougri situé entre les deux voies nord et sud de l'Interstate 17. Les anonymes se photographient, décorant l'arbre en prenant bien soin de ne pas être reconnus, car en fait c'est interdit de s'arrêter le long de l'autoroute pour des raisons évidentes de sécurité. Et ils envoient leurs clichés au ministère de la Sécurité publique, accompagnés d'un panier gourmand plein de cookies et d'autres gourmandises de Noël. Et donc, depuis le milieu des années 80, le genévrier de l'Interstate 17 est devenu une véritable star dans la région. À tel point que Dolan Ellis, le crooner officiel de l'État d'Arizona depuis 1966, lui a consacré une chanson qu'il a nommée Scrubby, qui veut dire « petit arbuste broussailleux ». Bon, bien sûr, il ne s'agit probablement pas de la même espèce que l'on trouve ici.
Out in Arizona, there's a story to be told. A scrubby, the little cedar tree that grows beside the road. I-17 to Flagstaff from the desert down below. And a random act of kindness by some secret caring soul. Each Christmas someone sneaks out there in the middle of the night. Decorates old Scrubby with Christmas balls so bright. It brings a smile to every face that passes by that sight. Yeah, Scrubby becomes a rock star, and for him this song I write. Scrubby is a cedar tree, no one knew his name, till someone decorated him and gave him pride and fame. Now the mystery of this scrubby tree has lived for 30 years. We peel an eye as we drive by when Christmas time draws near. Like children play of Santa's sleigh and the sound of eight reindeer. Each year we wait and anticipate for Scrubby to appear. Scrubby is a cedar tree, no one knew his name, till someone decorated him and gave him pride and fame. Magic of this mystery tree brings hope within our souls, that during these times of turmoil, a bell of goodness tolls. It tells the tale of Christmas that's heard across the land. It's an inspiration to us all to love our fellow man. Scrubby is a cedar tree, no one knew his name, till someone decorated him and gave him pride and fame. Now hopefully the mystery of Scrubby will never be solved. Let's let it be the identity of whomever is involved, 'cause it tells the joy of giving in a pure and selfless way. Like the baby Jesus gave to us on that first Christmas day.
Vous êtes toujours en compagnie de Caroline et vous venez d'entendre la chanson sur l'histoire de Scrubby, le genévrier de Noël qui est devenu un conte populaire contemporain plutôt sympathique. Et ce n'est pas nouveau que le genévrier soit l'objet de contes et légendes. Il est le symbole de chance et de protection, et il y a plein de croyances à ce sujet partout où il se trouve. Par exemple, sous forme de bâtons d'encens ou de brindilles et d'aiguilles jetées dans le feu, il protégeait les maisons contre les mauvais esprits et notamment ceux qui peuvent nous rendre malades, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au Moyen-Âge, sa popularité était telle qu'il était admis qu'une seule branche accrochée sur la porte d'une maison suffisait à en les noyer les serpents et à se protéger des sorcières. En fait, Il paraîtrait que celle-ci ne pouvait pas s'empêcher de compter toutes les aiguilles d'un rameau, tant elle appréciait le genévrier, d'ailleurs elle l'utilisait souvent en encens et dans leurs potions. Mais pendant ce temps-là, évidemment, elle prenait tous les risques pour se faire surprendre avant de pouvoir jeter leur sort à leur victime. Dans les Pyrénées, il était traditionnellement cloué sur les portes pour se protéger aussi des mauvais sorts et des voleurs. Il était également conseillé de mettre un brin de genévrier dans sa poche pour se prémunir des accidents et des attaques d'animaux sauvages. Bon, alors là, j'imagine qu'il valait mieux bien l'emballer pour éviter de se piquer, car c'est pas la plante la plus sympa à caresser. Et encore, de nos jours, dans certains foyers, le genévrier porte chance si on le brûle dans la maison le jour de l'an. Alors, il paraît aussi que lorsque la Vierge Marie fuyait les soldats d'Hérode pour protéger son enfant, le genévrier avait ouvert ses branches afin d'abriter Marie et la cacher. Reconnaissante, elle le bénit. Depuis ce moment-là, on portait les branches de genévrier à l'église le jour des rameaux, comme pour le buis d'ailleurs, pour les faire bénir par le prêtre, et ensuite on les suspendait dans la maison et dans les étables, et notamment le jour de Noël. Mais il existe la même histoire pour le buis et le hou. C'est comme ça qu'on se rappelle que ce sont bien des légendes, des histoires adaptées au lieu où l'on vit. Là où il y a du genévrier, en général, il n'y a pas trop de hou. Et en fait, cela marque mieux les esprits des gens de raconter des histoires avec des éléments qu'ils connaissent. Il existe aussi le conte du genévrier que vous connaissez peut-être. C'est un conte de Grimm, mais c'est probablement le plus malsain des contes de Grimm, je trouve. Car il parle d'infanticide et de cannibalisme, donc pas forcément très agréable à lire et à vous raconter, mais dont la touche finale est quand même le triomphe de l'amour et de la justice. Il y a Aurélie d'Orsay, une chanteuse violoniste belge, qui a repris une partie de ce conte dans une chanson. Mais j'ai préféré vous passer une chanson un peu plus agréable pour vous quitter. C'est une chanson douce et positive de Christy Moore qui s'appelle Miracles of Nature, dans laquelle il cite le genévrier parmi les miracles de la nature irlandaise qu'il semble beaucoup apprécier. Voilà, je vous souhaite de pouvoir prendre le temps d'une balade pour profiter de ce petit arbuste. Je vous dis à bientôt.
Traipsing round the burn, never spending very long here. And the only thing that I could think to say was, we all belong here. This is our native shore. While I'm here, I'd love to sing a song in praise of Mullaghmore. I took a rocky road up Crow Path and reckoned a mossy path up Schlieffgallen Braes. And I plunged the deep at Brandon Creek and stepped in a glade beyond the Maeve. All alone along the Wicklow Way, peace and solitude I found. When I reached the slopes of Mullaghmore, I could have swore that was the holy ground. Minister, minister, pause for reflection as you fly by helicopter in pursuit of re-election. An obsession with affairs of state and legislature leaves little time for us to share in the miracles of nature. Like the fairy fox gloving the rusty back fern at Poundagollum, the silver crane's bill and columbine at Carrickconnell, the juniper at Bell Harbour, the wintergreen around Schlieffcarron. These miracles of nature surviving in the crevices of the burn. There's gonna be sewerage schemes and septic tanks, tarmac and concrete mixers, and rumours circling County Clare, promising lots of mixers, and car parks to be levelled, in fills and elevations, and when all the dust is settled, a handful of jobs, and relations. And nature took 2 million years to sculpture Lochmore, carved from the ancient rock by the freezing ice and the snow. As the sun shines down on the mountain with the broad Atlantic Ocean, you can hear the small birds singing and the birds